le 6-9 du week-end. Éric Delvaux sur France Inter.
Bonjour Bruno Julliard.
Bonjour.
Premier adjoint à la mairie de Paris en charge de la culture et membre du Parti Socialiste. La mairie de Paris qui a les yeux rivés sur le niveau de la Seine depuis quelques jours, ce niveau qui ne cesse de monter ce matin encore. Le pic est attendu ce soir. Quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez? Elles sont aussi rassurantes que ce qu'on a pu entendre ce matin sur France Inter?
Oui, elles sont plus rassurantes que quelques craintes que nous pouvions avoir en milieu de semaine avec quelques précipitations potentielles supplémentaires dans le week-end ou semaine prochaine. Ça ne sera probablement pas le cas. Effectivement, nous estimons un pic de la crue dans la nuit de ce soir à demain matin. Normalement, la crue ne devrait pas dépasser les 6 mètres. On est à 5,70 mètres ce matin. La particularité de cette crue est qu'elle a été très lente dans la montée du niveau de la Seine. Il est donc à craindre que la décrue soit elle aussi très lente. C'est un peu un phénomène différent de ce que nous avons vécu il y a un an et demi. Et il faut faire très attention parce que, y compris pendant la décrue, le fleuve peut être dangereux, notamment pour les riverains, les usagers et les piétons qui voudraient se rendre pour parfois prendre de belles photos, mais c'est dangereux. Vous savez que ce sont plusieurs centaines de Parisiens, Parisiennes ou touristes que nous avons dû déloger des bords de Seine.
Justement, depuis quelques jours, quelles mesures ont été prises dans la capitale pour éviter la catastrophe ?
Alors, il y a eu d'abord des améliorations très sensibles depuis une vingtaine d'années maintenant, et plus particulièrement depuis la dernière crue, il y a un an et demi, notamment en termes de coordination de l'ensemble des services de l'État, de la préfecture, de nos partenaires, par exemple RATP pour le métro et le RER, et évidemment tous les services publics dépendants de la mairie de Paris. La coordination est bien meilleure, et ça a d'ailleurs été souligné par l'OCDE. Nous avons donc fermé un certain nombre de voies de circulation, je pense évidemment aux berges de Seine, fermées aux piétons puisqu'elles étaient déjà fermées aux voitures. Nous avons, avec la RATP, fermé le RERC, probablement malheureusement jusqu'à vendredi prochain, vendredi 2 février, notamment en raison de la lenteur de cette décrue.
De la Seine.
Nous avons beaucoup, beaucoup progressé dans la formation, notamment des riverains de la Seine, la formation de l'ensemble de nos personnels, les fonctionnaires qui peuvent être amenés à intervenir le long de la Seine. Beaucoup amélioré également l'information et la formation de tous ceux qui utilisent la Seine comme activité professionnelle, je pense notamment aux péniches qui accueillent des restaurants ou des bars par exemple, ou l'ensemble des activités d'entreprise au bord de la Seine. En revanche, force est de constater, et vous en parliez ce matin d'ailleurs sur votre antenne, qu'il faut aller beaucoup plus loin pour prévenir une crue qui inévitablement arrivera, qui est une crue bien plus importante que celle que nous vivons aujourd'hui, qui est déjà conséquente, mais qui pourrait être supérieure de 2 à 3 mètres,
comme celle de 1910. Comment envisagez-vous à la mairie de Paris de faire mieux que ce qui est déjà envisagé pour prévenir les crues et les inondations surtout?
Nous ne pourrons pas faire seul, même si la maire de Paris et l'ensemble des élus parisiens ont engagé différentes actions. Je vois 3 pistes. D'abord, il faut continuer à améliorer nos outils d'information, de formation, y compris des scolaires, face à un événement dont aujourd'hui beaucoup sous-estiment l'impact et l'ampleur. Nous sommes très vulnérables, notamment en raison des différences d'urbanisation par rapport à 1910. Nous avons beaucoup plus de transports en commun dans les sous-sols, beaucoup plus de réseaux de communication, des réseaux de chauffage, des réseaux électriques qui nous rendent très vulnérables.
Bon, on dit qu'il y a sous Paris l'équivalent d'un immeuble de 8 étages.
Absolument. Alors c'est très différent suivant les sols parisiens, mais c'est très vrai le long de la Seine, avec des activités qui sont extrêmement diverses. Cela peut aller de réserve de certains musées. Ça, aujourd'hui, des musées nationaux comme des musées de la ville de Paris, je pense par exemple au Petit Palais, nous avons aujourd'hui des process très efficaces qui fait que nous sommes en capacité de garantir l'intégrité de toutes nos collections et de toutes nos œuvres, État comme ville de Paris. Mais en ce qui concerne les transports, les réseaux de chauffage, les réseaux d'électricité, les réseaux de communication, là nous sommes très vulnérables. Donc améliorer l'information, la formation, mais je dirais uniquement en termes de prévention, c'est-à-dire pouvoir bien agir lorsque cette crue arrivera. Mais il faut aller plus loin, et là la ville de Paris ne peut pas le faire seule. Je pense notamment dans les nombreuses constructions à venir, à l'occasion des Jeux Olympiques par exemple, ou encore lorsque nous allons aménager le quartier de la ZAC de Bercy, qui est en partie dans une zone inondable. Il faut modifier nos manières de construire, notamment pour éviter des sols qui sont devenus aujourd'hui très imperméables. C'est la grande différence par rapport au début du siècle précédent. Nous avions des sols qui pouvaient jouer ce rôle d'éponge, ça n'est plus le cas. Et puis un dernier élément, et ça demande beaucoup de conviction parce que nous ne serions pas prêts aujourd'hui. L'OCDE insiste là-dessus, la maire de Paris aussi. Il faut que tous prennent bien conscience que une partie aussi se jouera dans notre capacité, lorsqu'il y aura une crue, à être prêts pour la reconstruction après la crue et ne pas refaire les mêmes erreurs, notamment en termes d'urbanisation. C'est là où nous sommes le plus vulnérables. C'est pas simple de se dire qu'aujourd'hui il faut dépenser de l'argent pour financer des études en cas de crise qui peut-être n'interviendra que dans 20 ans, c'est pourtant déterminant.
Bruno Julliard, il y a aussi quelques voix qui s'élèvent, notamment au sein de l'OCDE, pour regretter un manque de leadership politique pour prévenir et pour notamment, pourquoi pas, organiser les secours aussi. Il y a un manque dans Paris et la région, un manque de leadership politique. Est-ce que le Grand Paris ne serait pas l'occasion de mettre ça sur pied?
Absolument, ce sera déterminant. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait depuis la dernière crue, il y a un an et demi. Nous avons créé des cellules de crise, déjà à l'échelle parisienne, dans notre compétence Mairie de Paris, avec tous nos partenaires. Ça n'est pas suffisant, notamment parce que nous savons qu'une partie essentielle des solutions proviendra de notre capacité en amont du territoire parisien à proposer des solutions, notamment avec bon nombre de secteurs agricoles, par exemple. Et là, inévitablement, il faut une coordination à l'échelle, bien sûr, de l'État. Vous disiez ce matin aussi sur votre antenne que les conséquences ne seraient pas uniquement pour l'économie ou l'urbanisme parisien, mais bien pour l'ensemble du pays. Donc à l'échelle de la France, mais bien sûr, d'abord et avant tout, à l'échelle régionale, mais surtout métropolitaine. Et s'il y a eu, et nous avons d'ailleurs invité des représentants de la métropole du Grand Paris à l'ensemble de nos outils de crise, il faut aller nettement plus loin, notamment pour construire les outils de prévention, d'information, de formation, mais plus encore, se mettre d'accord sur quelques axes d'urbanisation à venir pour corriger des erreurs, non pas récentes, mais des décennies qui sont écoulées.
Les inondations dans Paris et la région, on en reparlera sûrement tout à l'heure avec les questions des auditeurs. Je voudrais parler de l'aspect politique, Bruno Julliard. Vous êtes membre du Parti Socialiste, un parti moribond qui n'a plus beaucoup d'adhérents, ni doctrine, projet politique très précis en ce moment. À qui la faute ?
La faute à beaucoup, la faute au Parti Socialiste lui-même, qui, je crois, ces dernières années a eu beaucoup de mal à se réinventer, à être à la hauteur des exigences que un peuple de gauche qui, lui, existe encore, et heureusement, pouvait porter en lui, notamment en termes d'espoir. Et puis aussi, il faut le reconnaître, une lassitude des électeurs qui sont allés voir ailleurs l'année passée, du côté de Jean-Luc Mélenchon ou du côté de Emmanuel Macron. La question qui se pose aujourd'hui, c'est, Mitterrand disait ça d'ailleurs, est-ce que le Parti Socialiste est aujourd'hui l'outil adéquat pour conquérir le pouvoir et pour mener des politiques progressistes?
Bon, tel moi, qu'il est aujourd'hui, on connaît la réponse.
Tel qu'il est aujourd'hui, non. Et les électeurs nous l'ont clairement fait comprendre. La question est de savoir si l'EPS, tel qu'il est aujourd'hui, dans l'état moribond que vous avez décrit, est-ce qu'il est aujourd'hui en capacité d'être ce noyau dur de réinvention d'une grande force de gauche, social-démocrate, profondément européenne, très écologiste? Moi, je crois que oui, mais ça demandera du rassemblement, ça demandera beaucoup d'unité, beaucoup de travail, et sortir de débats qui aujourd'hui m'apparaissent pas forcément les plus pertinents.
Mais justement, entre les sociaux-démocrates qui sont partis en partie chez Macron et les plus radicaux tentés par Mélenchon, quel serait, selon vous, aujourd'hui, le corpus politique, idéologique du Parti Socialiste pour se relancer?
Alors justement, lorsque je parlais de débats pas forcément pertinents, ne m'en voulez pas, mais je pensais précisément à ce type de questions. Depuis plusieurs mois, même plusieurs années maintenant, nous pensons à la social-démocratie et donc au Parti Socialiste uniquement en termes soit de casting, soit, et là nous ne sommes pas très pertinents aujourd'hui, soit de part de marché.
C'est-à-dire je vous ai parlé de corpus politique,
oui,
on est à l'inverse de ça.
Sauf que vous avez débuté votre question en vous disant, mais aujourd'hui quel serait votre espace finalement entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre? Je pense que si nous raisonnons dans le congrès du PS aujourd'hui, et encore plus dans les années qui viennent, uniquement en se disant comment on va pouvoir exister aujourd'hui entre Mélenchon et Emmanuel Macron, je pense que nous ne sortirons pas de l'abîme et en réalité là le PS disparaîtra. Nous avons devant nous des années et des années de reconquête et de réinvention d'une force de gauche, social-démocrate, européenne, écologiste. Et sur des axes essentiels, il nous faut réinventer une pensée progressiste de gauche qui parfois pourra peut-être être proche de Emmanuel Macron, parfois proche de Jean-Luc Mélenchon. Qu'avons-nous à dire sur l'innovation économique, sur l'attractivité de notre pays? Qu'avons-nous à dire sur les questions de solidarité, l'accueil des migrants comme la lutte contre la grande pauvreté? Comment réduire les inégalités qui augmentent encore aujourd'hui? Comment la gauche de demain peut être profondément écologiste. Édouard Glissant disait « Agis en ton lieu, pense avec le monde ». Nous avons des initiatives locales, parfois vraiment micro-locales. Nous avons la gauche à la tête, rassemblée à la tête de certaines collectivités. Il se passe des choses très bien sur le territoire. Il faudra savoir s'en inspirer pour construire la gauche de demain. Ça prendra beaucoup de temps et j'espère que ce congrès va quand même un peu nous y aider.
Le congrès du mois d'avril à Aubervilliers. Bruno Julliard, on va reprendre cette interview dans quelques minutes après la revue de presse de Frédéric Pommier. Il y aura aussi Patricia Martin et les questions des auditeurs. Vos questions ce matin à Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie de Paris. Vous appelez le 01 45 24 7000.